Amis auditeurs, bienvenue dans notre émission hebdomadaire sur les Pères de l'Église. Nous abordons aujourd'hui une œuvre nouvelle, toujours de saint Jean Chrysostome, ce père de l'Église mort au début du 5e siècle. Aucun père n'a laissé un héritage littéraire aussi important en volume que Jean Chrysostome. La plus grande partie est composée de ces quelques 700 homélies sur les livres de la Sainte Écriture. Nous allons nous pencher dans cette série d'émissions sur ces homélies sur la Genèse, 67 homélies, commencées à l'approche du carême, probablement en 388, alors que Jean est prêtre à Antioche. Elle commente tout le livre de la Genèse, tandis que pendant le carême de 386, il n'avait fait que 9 homélies sur une petite partie de la Genèse. Alors on a retenu ici les passages qui commentent directement le texte même du livre de la Genèse. Et pour sa lecture de la Genèse, Chrysostome utilisait la version des Septante, qui est différente en plusieurs endroits des traductions actuelles. Et justement, puisque nous ne retenons que les passages commentant le livre lui-même, nous démarrons avec l'homélie numéro 2. Et Jean Chrysostome prend pour son texte ce verset 1 du chapitre 1 de la Genèse. « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Examinons donc, s'il vous plaît, quel est le sens du passage de la Genèse qui vient d'être lu. Mais prêtez-moi, je vous en conjure, une bienveillante attention, car ce ne seront ni mes pensées, ni ma parole, mais celles que le Saint-Esprit m'inspirera pour votre utilité, que vous entendrez. Au commencement, dit Moïse, Dieu créa le ciel et la terre. Ici, on demande avec raison pourquoi ce saint prophète, qui n'a vécu que plusieurs siècles après la création du monde, nous en raconte l'histoire. Certes, il ne le fait point au hasard et sans de graves motifs. Il est vrai que dans les premiers temps, le Seigneur qui avait créé l'homme parlait lui-même à l'homme en la manière que celui-ci pouvait l'entendre. C'est ainsi qu'il conversa avec Adam, puis qu'il reprit Caïn, qu'il donna ses ordres à Noé et qu'il s'assit sous la tente hospitalière d'Abraham. Et même lorsque le genre humain se fut précipité dans l'abîme de tous les vices, Dieu ne brisa pas toute relation avec lui. Mais il traita dès lors les hommes avec moins de familiarité, parce qu'ils s'en étaient rendus indignes par leurs crimes. Et lorsqu'il daigna renouer avec eux des rapports de bienveillance, et comme faire une nouvelle alliance, il leur parla par lettre, ainsi que nous le faisons à un ami absent. Or Moïse est le porteur de ces lettres, et voici quelle en est la première ligne. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Je vous conjure donc d'imposer silence à tout raisonnement humain, et de ne point écouter ce récit comme s'il n'était que la parole de Moïse, car c'est Dieu lui-même qui nous parle, et Moïse n'est que son interprète. Les raisonnements de l'homme, dit l'Écriture, sont timides et ses pensées incertaines. Accueillons donc la parole divine avec une humble déférence, sans dépasser les bornes de notre intelligence, ni rechercher curieusement ce qu'elle ne saurait atteindre. Mais les ennemis de la vérité ne connaissent point ces règles, et ils veulent apprécier toutes les œuvres du Seigneur selon les seules lumières de la raison, insensées. Ils oublient que l'esprit de l'homme est trop borné pour sonder ses mystères. Et pourquoi parler ici des œuvres de Dieu, quand nous ne pouvons même pas comprendre les secrets de la nature et des arts? Quelle serait notre défense et quelle excuse alléguée si vous vous flattiez follement de comprendre des choses qui surpassent toute intelligence humaine? Car soutenir que la matière a donné l'être à toutes les créatures et nier qu'un Dieu créateur les a tirées du néant, ce serait le comble de la folie. Aussi, le saint prophète, pour fermer la bouche de l'insensé, commence-t-il son livre par ces mots « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Dieu créa. Arrêtez donc toute curieuse recherche. Humiliez-vous et ajoutez foi à celui qui vous parle. Or, c'est Dieu qui a tout fait, qui prépare toutes les choses et qui les dispose selon sa sagesse. Et voyez comme l'écrivain sacré se proportionne à votre faiblesse. Il omet la création des esprits invisibles et il ne dit point « Au commencement, Dieu créa les anges et les archanges », mais il n'agit ainsi que par prudence et pour mieux nous disposer à recevoir sa doctrine. Et en effet, il parlait au peuple juif qui ne s'attachait qu'aux biens présents et terrestres et qui ne pouvait concevoir rien d'invisible et de spirituel. C'est pourquoi il le conduit par la vue des choses sensibles à la connaissance du Créateur et lui apprend à contempler l'ouvrier suprême dans ses œuvres, en sorte qu'il sache adorer le Créateur et ne point se fixer ni s'arrêter à la créature. Malgré cette condescendance, ce même peuple n'a point laissé de se faire des dieux mortels et de rendre les honneurs divins aux plus vils animaux. Jean, le fils du tonnerre, s'écrie : Tout a été fait par le Verbe, et sans lui, rien n'a été fait. Mais Moïse débute moins solennellement, et il a eu raison de le faire. Car il ne convenait point d'offrir des viandes solides à ceux qu'il fallait nourrir encore de lait. Les maîtres expliquent d'abord aux enfants qu'on leur confie les premiers éléments des sciences, et puis ils les conduisent progressivement à des connaissances plus élevées. C'est aussi cette méthode qu'ont suivi Moïse, le docteur des nations, et Jean, fils du tonnerre. Moïse, qui, dans l'ordre des temps, est le premier instituteur de l'humanité, ne lui a proposé que les premiers éléments de la doctrine. Jean, au contraire, et Paul, qui lui ont succédé, ont pu développer à leurs disciples un enseignement plus parfait. Nous comprenons donc les motifs qui ont porté Moïse à condescendre à la faiblesse de son peuple. Sous l'inspiration de l'Esprit-Saint, il parlait aux Juifs le langage qui leur convenait. Mais il ne laissa pas d'étouffer par ses mots. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, toutes les hérésies qui, comme un mauvais grain, devaient pulluler dans l'Église. C'est pourquoi, quand un manichéen vous dit que la matière préexistait et quand Marcion, Valentin ou un païen vous soutiennent la même opinion, répondez-leur qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Mais s'ils récusent l'autorité de l'Écriture, traitez-les comme des extravagants et des insensés. Et en effet, comment excuser celui qui refuse de croire le Créateur de l'univers et qui taxe de mensonges la vérité suprême ? Il se cache sous de belles apparences et feint les dehors de la douceur, mais il n'en est pas moins un loup sous une peau de brebis. Ne vous laissez donc point séduire, et vous devez même d'autant plus le haïr qu'il affecte comme un homme une conduite pleine d'égards et déclare la guerre au Dieu souverain maître de l'univers. Hélas ! Il ne s'aperçoit pas qu'il expose le salut de son âme. Or, la terre était invisible et informe. Pourquoi le Seigneur, je vous le demande, a-t-il créé le ciel lumineux et parfait et la terre informe ? Certes, il n'a point agi sans raison, mais il a voulu nous révéler, par ce chef-d'œuvre de la création, qu'il en a produit également les autres parties, et que ce n'est point impuissance de sa part si elles sont moins parfaites. Une autre raison de ce qu'il a créé la terre informe, c'est qu'elle est la mère et la nourrice du genre humain. Nous naissons de son sein et nous vivons de ses productions. Elle est la patrie et la sépulture de tous les hommes, le centre qui nous réunit tous et la source qui nous enrichit de mille biens. Mais de peur que le sentiment du besoin ne porte les hommes à lui rendre un culte idolâtrique, Moïse nous la montre informe et toute nue, afin que nous ne lui attribuions point sa fécondité, et que nous en rapportions la gloire à celui qui l'a tirée du néant. Voilà pourquoi l'Écriture dit que la terre était invisible et informe. Mais peut-être vous ai-je fatigué dès le commencement par des raisonnements trop subtils. C'est pourquoi je crois utile de terminer ici ce discours. Et néanmoins, je conjure votre charité de conserver le souvenir de mes paroles et de les méditer souvent. Que votre lumière, dit Jésus-Christ, luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ainsi, notre vie doit s'accorder avec les dogmes de notre religion, car la foi sans les œuvres est morte, et les œuvres sans la foi sont également mortes. En effet, une saine doctrine ne nous servira de rien si nous ne sanctifions notre conduite, et de même une vie régulière avec une croyance erronée ne nous sera point comptée pour le ciel. Il faut nécessairement joindre la bonne doctrine à une bonne vie. Troisième homélie. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, et du soir et du matin se fit le premier jour. La lecture des divines Écritures se compare à un riche trésor, et en effet, celui qui a un riche trésor à sa disposition peut facilement s'enrichir. Et de même, une seule ligne des Saintes Écritures nous offre une rare fécondité de pensée et d'immenses richesses. Mais la parole du Seigneur ne ressemble pas seulement à un trésor, elle est encore une fontaine qui s'épanche toujours abondante et inépuisable. Hier, nous avons pu nous en convaincre, puisque l'explication de ces premières paroles de la Genèse, « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre », a pris tout le temps de l'instruction, sans que nous l'ayons achevée. trésor est riche et cette fontaine intarissable. Au reste, ne vous étonnez point, mes frères, de notre impuissance, car ceux qui nous ont précédés sont venus, eux aussi, boire à cette source et ne l'ont point épuisée. Ceux qui nous suivront y viendront également et ne la tariront point. Tout au contraire, elle croît et grossit à mesure qu'on y puise. Telle est en effet la nature des eaux spirituelles de la grâce, qu'elle coule d'autant plus abondante qu'on y puise plus fréquemment. Après avoir dit que la terre était invisible et informe, il nous en donne la raison en ajoutant que les ténèbres couvraient la face de l'abîme et que l'Esprit de Dieu était porté sur les eaux. Mais observez avec quel soin le saint prophète retranche ici tout détail inutile. Il ne nous raconte point toutes les diverses particularités de la création. Mais parce que le ciel et la terre contiennent tous les éléments, il se contente de les mentionner et passe les autres sous silence. C'est ainsi que, sans décrire la formation des eaux, il dit simplement que les ténèbres couvraient la face de l'abîme et que l'Esprit de Dieu était porté sur les eaux. Le saint prophète dit que l'Esprit de Dieu était porté sur les eaux, afin de nous apprendre qu'elle possédait une force énergique et secrète, et ce n'est point sans raison que l'Écriture s'exprime ainsi. Car elle veut nous disposer à croire ce qu'elle nous dira plus tard, que les animaux ont été produits de ces eaux par le commandement de Dieu, Créateur de l'univers. Aussi Moïse ne se contenta-t-il pas de dire que Dieu créa les eaux, mais il ajoute qu'elles se mouvaient, se répandaient et couvraient l'espace. Donc, lorsque la terre était encore informe et submergée sous l'abîme, le divin ouvrier corrigea d'une seule parole cette difformité. Il produisit la lumière dont l'éclatante beauté dissipa soudain les ténèbres extérieures et illumina l'univers. Car Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Il dit et la lumière parut. Il commanda et les ténèbres s'enfuirent à la présence de la lumière. Quelle n'est point la puissance du Seigneur ? Et Dieu divisa la lumière d'avec les ténèbres, c'est-à-dire qu'il leur désigna une demeure séparée et qu'il leur fixa un temps spécial et déterminé. Il leur donna ensuite un nom particulier, car Dieu, dit Moïse, appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Observez comme une seule parole et un seul commandement réalise cette heureuse séparation et opère cette œuvre admirable que notre raison ne saurait comprendre. Voyez encore comme le saint prophète s'est accommodé à la faiblesse de notre intelligence. Ou plutôt, c'est Dieu lui-même qui a daigné parler par sa bouche afin d'apprendre aux hommes quel a été l'ordre de la création, quel est l'auteur de l'univers et de quelle manière il a produit toutes les créatures. Le genre humain était encore trop grossier pour comprendre un langage plus élevé. C'est pourquoi Moïse, dont l'Esprit Saint dirigeait la parole, s'est proportionné à l'infirmité de ses auditeurs. Il leur a donc expliqué toutes choses avec méthode, et il est si vrai qu'il n'emploie que par condescendance ce tempérament de style et de pensée que l'évangéliste, fils du tonnerre, suit une route tout opposée. Il écrivait dans un temps où les hommes étaient plus avancés dans l'intelligence de la vérité. Aussi les élève-t-il soudain jusqu'au plus sublime mystère, car après avoir dit « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu », il ajoute « Il était la véritable lumière qui illumine tout homme venant au monde ». Et en effet, de même que dans la création, cette lumière sensible qui se produisit à la parole du Seigneur dissipa les ténèbres matérielles, de même la lumière spirituelle chasse les ténèbres de l'erreur et ramène à la vérité ceux qui s'égarent. Recevons donc avec reconnaissance les instructions que nous donne la Sainte Écriture, et nous ne nous opposons point à la vérité de peur que nous ne demeurions dans les ténèbres. Mais au contraire, venons à la lumière et opérons des œuvres dignes du jour et de la lumière. Saint Paul nous y exhorte quand il dit « Marchons dans la décence comme durant le jour et ne faisons point des actions de ténèbres. » Mais je m'aperçois d'une omission et je la répare. Après donc que Dieu eut dit « Que la lumière soit et la lumière fut », Moïse ajoute « Et Dieu vit que la lumière était bonne ». Considérez ici, mes chers frères, avec quel art l'écrivain sacré tempère ses expressions. Quoi ? Dieu ignorait-il que la lumière soit bonne avant qu'il ne l'ait créée ? Et sa vue ne lui en a-t-elle découvert la beauté que du moment où il l'a produite ? Mais quel homme sensé admettrait un tel doute ? Car nous voyons qu'aucun ouvrier n'entreprend un ouvrage, ne le travaille et ne le polit sans en connaître d'avance le prix et l'usage. Et vous voudriez que l'ouvrier suprême, qui a tiré toutes les créatures du néant, n'ait pas su avant de la produire que la lumière était bonne ? Pourquoi donc Moïse emploie-t-il cette façon de parler ? C'est que le saint prophète s'abaisse et s'accommode à l'usage ordinaire des hommes. quand ils ont travaillé avec grand soin un ouvrage important et qu'ils l'ont heureusement achevé, ils l'examinent de près et l'éprouvent afin de mieux en connaître tout le mérite. Et de même, la Sainte Écriture se proportionne à la faiblesse de notre intelligence en disant que Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu divisa la lumière d'avec les ténèbres, et il appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il leur marque ainsi un temps déterminé, et dès le commencement, il fixa à la lumière et aux ténèbres les limites qu'elles ne devaient jamais franchir. Il suffit en effet d'un peu de bon sens pour se convaincre que depuis ce moment jusqu'à aujourd'hui, la lumière n'a point dépassé les bornes que Dieu lui a marquées, et que les ténèbres se sont également contenues dans leurs limites, sans amener aucun trouble ni aucune confusion. Mais cette simple observation ne devrait-elle pas obliger tous les incrédules à croire ce que l'Écriture nous dit et à pratiquer ce qu'elle nous commande ? Ils imiteraient du moins ces éléments qui produisent invariablement leur course, sans en dépasser jamais les limites ni méconnaître les bornes de leur nature. Mais après que Dieu eut séparé la lumière d'avec les ténèbres et qu'il leur eut donné un nom particulier, il voulut les réunir sous une commune dénomination. Aussi Moïse ajoute-t-il que du soir et du matin se fit le premier jour. C'est ainsi que le jour, comprenant l'espace que parcourent alternativement les ténèbres et la lumière, maintient entre elles l'ordre et l'harmonie et empêche toute confusion. L'Esprit-Saint nous a donc révélé, par l'intermédiaire de notre illustre prophète, l'œuvre du premier jour de la création, et il nous révélera également les œuvres des autres jours. Or, cette création successive est de la part de Dieu une preuve de condescendance et de bonté. Car sa main était assez puissante et sa sagesse assez infinie pour achever la création dans un seul et même jour. Que dis-je, dans un jour, un seul instant lui suffisait, mais puisqu'il n'a pu, n'ayant besoin de rien, créer le monde pour sa propre utilité, il faut dire qu'il n'a produit tant de créatures que par son extrême bonté. Et c'est encore cette même bonté qui l'a porté à ne produire ses créations que successivement et à nous faire connaître par notre saint prophète l'ordre et la suite de ses ouvrages. Il a voulu que cette connaissance nous empêche de nous laisser séduire par les erreurs de la raison humaine. Et en effet, plusieurs soutiennent encore, malgré une révélation si expresse, que le hasard a tout fait. Mais si Moïse ne nous avait pas instruits avec tant de condescendance et de netteté, que n'aurait-il pas osé ceux qui ont la hardiesse d'avancer de semblables propositions et de tenir une conduite si préjudiciable à leur salut? En effet, n'est-ce pas le comble du malheur comme de la folie que d'affirmer que le hasard a tout fait et que la providence divine est étrangère à la création? Car peut-on raisonnablement admettre, je vous le demande, que le hasard ait produit ce vaste univers avec sa brillante décoration et qu'il le conserve et le régisse? Un vaisseau sans pilote ne traverse point les flots. Une armée ne fait rien de grand et d'éclatant sans un général. Une famille ne s'administre point sans un chef. Et l'on voudrait que ce vaste univers et l'ensemble des éléments qu'il renferme se soient produits fortuitement? Mais ce serait nier l'existence d'un être supérieur qui a tout créé par sa puissance, de même qu'il maintient et dirige tout par sa sagesse. Au reste, est-il besoin de nouveaux arguments pour prouver à ces aveugles des vérités qui sautent aux yeux? Cependant, je ne négligerai point de leur proposer l'explication de nos saints livres, et j'y emploierai même tous mes soins, afin de les arracher à leurs erreurs et les ramener à la vérité. Car malgré leur égarement, ils sont nos frères, et à ce titre, ils ont droit à toute notre sollicitude. C'est pourquoi je m'appliquerai avec zèle et selon mes forces à leur présenter de salutaires remèdes, et peut-être un jour reviendront-ils à la saine doctrine. Rien en effet n'est plus cher à Dieu que le salut des âmes. Il veut, comme l'apôtre nous l'assure, que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent tous à la connaissance de la vérité. Et le Seigneur lui-même nous dit « Je ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. » Il n'a donc créé l'univers qu'en vue de notre salut, et il nous a fait naître, non pour nous perdre et nous précipiter dans les supplices de l'enfer, mais pour nous sauver, nous délivrer de l'erreur et nous rendre participants de son royaume. C'est ce royaume qu'il nous a destiné depuis longtemps avant notre naissance, et avant même qu'il ait jeté les fondements du monde, comme Jésus-Christ nous l'apprend par ses paroles, « Venez les bénis de mon Père, possédez le royaume qui vous a été préparé avant la création du monde. » Oh, combien est grande la bonté du Seigneur ! Il n'avait pas encore créé le monde ni formé l'homme, que déjà il nous préparait les biens infinis du ciel. Pouvait-il mieux montrer ses soins à l'égard de l'homme et son désir de notre salut. Mais puisque nous avons un Maître si plein de miséricorde, de bonté et de douceur, travaillons à sauver et notre âme et celle de nos frères. Car une voie facile et assurée de salut est de ne point concentrer sur soi-même toute sa sollicitude et de l'étendre jusqu'à ses frères, en sorte qu'on leur soit utile et qu'on les ramène dans les sentiers de la vérité. Voilà, comment refuser à nos frères qui nous le demandent de rendre raison de notre espérance, pourrait s'intituler ce passage de Saint Jean Chrysostome, qui veut que, avec l'Écriture, que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est pourquoi il nous le dit, il entreprend le commentaire de la Genèse. Eh bien, donc, rendez-vous est donné pour poursuivre dans cette première page de notre Bible. Le récit de la création, ça sera la semaine prochaine, même lieu, même heure. Au revoir.
Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent. En toute création, par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit, comme un buisson ardent, et par l'aile du vent, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent. En toute création, par tous les animaux, de la terre et de l'eau, par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par l'homme que tu fis, juste moins grand que toi, et par tous ses enfants, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu. Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu. Présent en toute création.